Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Nous sommes un collectif avec le mouvement de l'objection de conscience, Survie Lorraine, l'association France-Palestine Solidarité, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, les éditions Kairos, la Ligue des droits de l'homme de Nancy, le syndicat des avocats de France et Amnesty International et le MAN, Mouvement pour une alternative non violente. Notre collectif échange des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur les conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous aborderons la question assez étrange au XXIe siècle de vouloir glorifier la torture, de vouloir glorifier les militaires qui ont tué dans les guerres de décolonisation, parce que à Toul, la mairie de Toul a l'intention de d'ériger, d'installer une statue du général Bijard. Donc on vous racontera un petit peu tout ça avec le collectif qui s'appelle Mémoire et Histoire ou Histoire et Mémoire Mémoire et Histoire ou Histoire et Mémoire
dans le respect des droits humains.
Dans le respect des droits humains, c'est ça. Autour des micros, alors nous avons Sylvie qu'on vient d'entendre.
Bonjour
Sylvie, toi tu es à la Libre Pensée, tu es aussi à la France Insoumise et tu es membre de ce collectif toulois.
Oui, parce que je suis touloise également.
Parce que tu es touloise, voilà. Et nous avons aussi également Philippe Cidre de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Toi tu es à la Ligue des droits de l'homme de Nancy. À la section
de Nancy.
Tu fais aussi plein de choses comme nous tous, plein d'associations.
Voilà, mais plein d'engagements à droite à gauche. Ouais,
mais tu es aussi membre de ce collectif à la Ligue des droits de l'homme et assez impliqué aussi dans ce collectif. Eh ben, ça sera l'objet de notre dossier. Mais comme la tradition le veut, on commence toujours par quelques brèves. Philippe, tu veux nous parler de...
Bah, alors, je peux parler en fait vraiment de l'actualité puisque ça s'est passé il y a deux jours, dans la nuit plus exactement du 22 au 23 avril. Voilà, ça a fait la une des journaux. Alors, une honte nationale, titre de nombreux journaux. La loi britannique visant à expulser des migrants au Rwanda a été adoptée. Le projet de loi adopté dans la nuit du 22 au 23 avril autorise l'expulsion des migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne, d'où qu'ils viennent, vers le Rwanda, qui examinera leur demande d'asile. Voilà, ça c'est le cadre de la loi.
Il y a eu un accord entre la Grande-Bretagne
et le Rwanda. Rwanda. En fait, c'est un marchandage de personnes, simplement, d'êtres humains. Tout à fait. Et quelle que soit l'issue, ces migrants ne pourront pas revenir au Royaume-Uni. C'est ce qui a été acté. Alors pour cela, Londres a passé un accord avec Kigali qui prévoit le versement financier en échange de l'accueil des migrants. On parle de 2 millions d'euros par personne.
Waouh !
Ce qui est vraiment énorme. Alors pour Kigali, effectivement, le président du Rwanda dit nous ça va apporter de l'argent dans notre pays et c'est tout bénéf.
On ne regarde pas les droits humains, l'argent n'a pas d'odeur.
On s'en moque complètement. Voilà. Et puis depuis cette annonce là, effectivement, alors bien sûr l'Angleterre dit que le Rwanda est un pays absolument sûr, ce qui est évidemment pas le cas. Ouais. Et depuis, les appels internationaux se multiplient mardi pour exhorter le Royaume-Uni à renoncer à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Alors que le premier ministre britannique, qui est d'ailleurs issu de l'immigration, qui s'appelle Rishi Sunak, qualifie cette loi d'historique, ce qui est quand même absolument ahurissant. Voilà.
Pour lui, historique, c'est dans le sens positif du terme. Il pense que c'est bien.
Exactement. Que c'est formidable et que ça va arrêter l'arrivée des étrangers sur le territoire de la Grande-Bretagne.
Et c'est tout simplement monstrueux. C'est monstrueux de prendre des personnes, les lancer dans un pays d'Afrique centrale, du côté des Grands Lacs, du côté du Rwanda, comme ça, sans discussion. Et c'est vraiment. Terrifiant.
C'est absolument terrifiant. Alors il y a eu des réactions, bien sûr. Le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que cette nouvelle législation entrave sérieusement l'état de droit au Royaume-Uni et crée un précédent dangereux dans le monde.
Oui.
commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, Michael O'Flaherty, a qualifié de son côté cette loi d'atteinte à l'indépendance de la justice. Alors, on peut rappeler que le Conseil de l'Europe, qui réunit 46 membres, dont le Royaume-Uni, même s'il y a eu le Brexit, ils en font toujours partie, est dépositaire de la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette dernière avait déjà stoppé in extremis en juin 2022 un premier vol prévu pour le Rwanda. Voilà. Même la Cour suprême britannique a jugé le projet de loi illégal. Et juste pour terminer, ce qui est absolument terrible, c'est que quelques heures après l'adoption de la loi, dans la même nuit, 5 personnes ont trouvé la mort en tentant la traversée de la Manche.
Ouais, ça fait froid dans le dos et effectivement, on est dans une période où, y compris en France, la droite, l'extrême droite font cette chasse aux migrants. Les gens se défoulent sur des êtres humains en pensant que ça va régler leurs problèmes, alors que ça n'a aucun lien avec les difficultés que les uns et les autres peuvent connaître. Et on est totalement abasourdi qu'il n'y ait pas plus de réactions, notamment dans notre pays.
Oui, tout à fait. C'est absolument inacceptable.
Contre ces chasses à l'homme.
Oui, c'est chasse. Et puis, il y a des morts. 30 000 morts dans la Méditerranée. C'est effectivement terrifiant. Donc, on suit ça. Donc, la Ligue des droits de l'homme, pour les auditeurs, et également sur ce type d'information et de travail. On a fait plusieurs émissions sur les migrants, sur Parole de paix. Et c'est vrai que, dans une indifférence coupable, des hommes, des femmes meurent tous les jours et on rappelle quand même à tout le monde que quitter son pays pour migrer, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas des choses que les gens font hop comme ça aller légèrement, c'est pas comme si un riche français décidait d'aller s'installer un peu en Belgique parce que la fiscalité est moindre. C'est pas le même type de migration quand on est chassé par les guerres, par la misère notre époque manque cruellement d'humanité.
Ouais, c'est pas du tourisme.
C'est pas exactement. Et puis aussi rappeler dans tous les fantasmes que balance l'extrême droite, les gens quand ils partent, c'est que vraiment ils peuvent pas faire autrement, et c'est souvent très 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 difficile. Ils vivent des choses horribles et le plus souvent, ils vont dans les pays limitrophes de leur pays de départ. Voilà.
Ouais, très souvent.
Ouais. Ouais. Bon, il y a de quoi refaire plein d'émissions là-dessus. Alors, Philippe, tu avais aussi une deuxième brève.
Alors, j'ai une deuxième brève qui concerne aussi les migrants, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur les migrants, depuis notamment la loi immigration du mois de décembre, qui a été d'ailleurs votée avec les voix du Front National, le rappeler.
En France, mais il y a aussi l'Union européenne.
Il y a l'Union européenne, alors on pourra en parler peut-être un autre moment, parce qu'en fait, il faut décoder, en fait, c'est très, très, tellement compliqué qu'il faut vraiment décoder de manière très précise, en fait, l'ensemble des articles. Non, là, je voulais parler en fait de violences policières dans les CRA et particulièrement dans le CRA de Lyon 2.
Les CRA, alors qu'est-ce que c'est ?
Les CRA, c'est les centres de rétention administrative, c'est-à-dire que à partir du moment où un migrant reçoit une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, donc peut être incarcéré dans un CRA, donc un centre de rétention administrative. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi immigration qui a été votée au mois de décembre, promulguée au mois de janvier, il n'est pas prévu que les enfants puissent rejoindre les CRA. Alors que dans la directive européenne dont on parlait à l'instant, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, Gérald Darmanin a beau dire oui, regardez, en France, on est humain, on va pas enfermer les enfants dans les CRA, mais en réalité, s'il s'appuie en fait sur la législation européenne qui vient de se mettre en place, qui est absolument épouvantable, même pas de mots pour qualifier ça. Là, on peut, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès qu'on a un jour, en fait, les bébés, peuvent être incarcérés dans des CRA.
Et les CRA, ça ressemble, pour le dire aussi, ça ressemble vraiment à des prisons.
Ça ressemble à des prisons, oui.
Je crois qu'il y a énormément de policiers français qui sont mobilisés sur cette question-là. Ouais. C'est encore une utilisation inhumaine de la police.
Donc on peut en parler vraiment de manière un peu plus précise. Donc l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, c'est un observatoire qui travaille là-dessus, dont la LDH est membre, pas pris connaissance par voie de presse, de la dénonciation par une personne étrangère enfermée dans un CRA, donc en l'occurrence le CRA de Lyon 2, de violences graves, notamment des coups de poing. Alors, je suis désolé, mais c'est, il faut dire aussi les choses, de coups de poing sur les organes génitaux après qu'elle a été attachée au lit, qui aurait été commise à son encontre par plusieurs agents de la police aux frontières agissant de concert alors qu'elle était placée en cellule d'isolement. La plainte déposée par la victime, parce que ça aussi c'est assez terrible, c'est-à-dire que la justice ne fait pas non plus son travail derrière, par la victime à la suite de ces faits, intervient dans un contexte de ce qui apparaît bien comme une banalisation des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique au sein du CRA de Lyon, relevé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est parfaitement documenté. C'était des recommandations qu'il avait faites le 22 mai 2023. À l'issue de la première visite de cet établissement, là on va voir comme c'est terrible, fraîchement inauguré et présenté comme modèle du CRA du futur par le gouvernement. Fermez les guillemets. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait le caractère illégal des placements à l'isolement infligés aux personnes retenues dans des pièces, ça je cite le contrôleur, dans des pièces d'une saleté repoussante et des pratiques de contention qu'elles y subissent, auxquelles il doit être mis fin sans délai. Et c'est ce que, effectivement, c'est ce qu'on demande. Et l'Observatoire de l'enfermement des étrangers dénonce la surexposition aux violences policières des personnes étrangères enfermées dans les lieux privatifs de liberté, de manière générale, et montre en quoi la rétention favorise l'impunité des forces de l'ordre. Et pour terminer, ce que demande l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, c'est que la plainte... Et il y a eu d'ailleurs plusieurs plaintes qui ont été déposées, dénonçant ces nouvelles violences policières au sein d'un CRA, soient instruites avec la diligence nécessaire pour que toute la lumière soit faite sur les faits rapportés. Et il réitère son appel pour qu'il soit définitivement mis fin à ce régime d'enfermement administratif incompatible avec l'exercice des droits et la liberté de toute personne.
Oui. Bah. Donc là, ça fait partie des actions que suit la Ligue des droits de l'homme. Il y a aussi d'autres associations, peut-être qu'il faut dire aussi, la CIMAD existe
oui,
aussi.
Oui, il y a énormément d'associations, en fait, on peut peut-être pas en faire la liste, parce qu'elle est vraiment très très longue, mais qui s'associe effectivement, et qui dénonce, à la fois qui dénonce, mais aussi qui porte aussi un certain nombre de choses en justice.
Et peut-être dire aux éditeurs, auditrices intéressés par ces questions, et les autres que mène la Ligue des droits de l'homme, il y a un site qui s'appelle ldh-france.org, et pour rejoindre les militants et les militantes de Nancy, on peut envoyer un mail à ldh-nancy@ldh-france.org.
Bah bravo, tu fais mon travail.
Non mais c'est important que les gens qui sont derrière leur poste, quand qui se disent tiens moi je peux aussi faire quelque chose, moi aussi je vais sortir de mon canapé, je vais pas juste regarder le monde tel qu'il est, tel qu'il va mal, mais je vais aussi m'engager à ma mesure dans le monde associatif, dans nos associations respectives. Chacun mesure ce qu'il a envie de donner un peu, mais c'est vrai que c'est important pour sa propre liberté à soi, de se dire je fais quelque chose, c'est dur, mais je fais quelque chose un petit peu, voilà.
Et tous les communiqués, là, on peut les trouver, il y a des communiqués pratiquement tous les jours en ce moment, parce que comme tu le rappelais, l'actualité est absolument terrible, et on peut les retrouver effectivement sur le site de la LDH France.
Ouais. LDH-France.org. Et tu avais une troisième brève,
alors,
je crois.
Oui, j'ai une troisième brève. Ouais, je vais essayer d'être assez rapide, mais alors celle-là, elle est aussi terrible. Hein. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'il faut que je la retrouve. Mais c'est la LDH qui, avec une autre association, a porté plainte. Où est-ce qu'elle est? Elle est sur mon ordinateur, voilà. Avec l'association Utopia 56, donc la Ligue des droits de l'homme a porté plainte. Ça date d'hier, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans l'actualité.
On va dire fin avril.
Fin avril, oui, parce que l'émission sera diffusée plus tard. C'est une plainte qui a été déposée contre Fabrice Légéry. Alors, qui c'est Fabrice Légéry? Ah, oui. C'était l'ancien directeur de Frontex, et qui est aujourd'hui candidat au RN.
Donc Frontex, troisième. On rappelle aux auditeurs. Frontex. C'est dans le communiqué.
Ouais, je vais rappeler ce que c'est Frontex. Et aujourd'hui, donc, il est candidat du Rassemblement National aux élections européennes. Donc, on porte plainte. Enfin, la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 porte plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture. sur des faits vraiment très précis. Ces dernières années, la Méditerranée, tu en parlais tout à l'heure, est devenue la route migratoire la plus meurtrière au monde, avec près de 16 272 personnes, en tout cas celles qu'on connaît, parce qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas été identifiées, personnes migrantes mortes ou disparues entre janvier 2015 et avril 2022. Trop souvent, ces décès ne sont ni le fruit du hasard, ni d'accidents. Il s'agit en partie de crimes commis dans le cadre d'exactions perpétrées de manière méthodique et systématique en violation flagrante du droit maritime, de la Convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l'homme. Que ce soit par le refoulement incessant des autorités helléniques et les interceptions des embarcations par les gardes-côtes libyens, homicides, violences volontaires, mise en danger délibérée, entrave à l'arrivée des secours, non-assistance. Ces pratiques relèvent de crimes contre l'humanité, d'où la plainte. Or, il s'avère que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ça c'est Frontex, hein, qui est une agence en fait européenne, enfin en tout cas sous la tutelle de l'Europe.
Pour mettre des murs, pour empêcher, pour ériger des murs.
Normalement, c'est pas tout à fait ça en fait à l'origine. C'est ce qu'on va voir par la suite. D'accord, en fait, c'est l'inverse. C'est plutôt pour protéger en fait les personnes et pour venir en aide en fait aux migrants qui traversent la Méditerranée. Mais ce qu'on voit, c'est que son directeur, pendant le moment où il était directeur, en fait, a fait tout à fait l'inverse.
Monsieur Légéry, on rappelle
ça. Monsieur Légéry, voilà, c'est ça, Fabrice Légéry. Donc, il s'avère que l'agence européenne, donc Frontex, a joué un rôle essentiel dans la possibilité de commission de ces crimes. Et ce, depuis la nomination de Fabrice Légéry au poste de directeur exécutif. Donc, entre le 1er janvier 2015, c'est très précis, et le 28 avril 2022, où il a été démissionné.
Il était viré
par sa hiérarchie, alors que Fabrice Légéry avait l'entière mainmise sur le pouvoir de décision de Frontex, était le seul à s'entretenir avec les États membres au sein de l'agence. Il a radicalement et durablement changé son rôle au sein de l'Union européenne au risque de devenir complice actif de crimes contre l'humanité, de crimes de torture commis par les autorités libyennes et grecques. Sous l'impulsion de ce nouveau directeur, les missions de l'agence ont été non seulement développées de façon fulgurante, mais aussi dénaturé de la pire manière qui soit, d'un rôle d'appui et de soutien. Donc ça, d'accord, c'était vraiment les missions de l'agence. L'agence s'est progressivement substituée aux États membres dans la gestion de leurs frontières. Pour affirmer le rôle de police de l'agence, son directeur a fait le choix d'une politique visant à faire obstacle, quel qu'en soit le prix, en vie humaine notamment, à l'entrée de personnes migrantes au sein de l'UE. Alors en gros, pour faire rapide, alors il a déjà caché sous silence en fait toutes les décisions qu'il a prises à sa hiérarchie, mais ce qu'il faisait, c'est que bon, c'est des avions qui passent au-dessus de la Méditerranée, qui repèrent les embarcations, etc. Donc normalement, qui doivent leur porter assistance ou alors en tout cas appeler pour qu'il y ait des bateaux qui viennent les sauver. Mais ce que faisait Monsieur Légéry, en fait, c'est que il demandait à ce que les autorités libyennes soient appelées, c'est-à-dire quand ils étaient à la limite de la frontière, pour que les bateaux en fait soient repris par les gardes frontières libyens, par les gardes côtes libyens. Voilà, c'est ça. À d'autres moments, en fait, quand il y a des bateaux qui coulaient, ils ne les signalaient pas. C'est-à-dire qu'il laissait en fait le bateau couler.
Des gens mouraient.
C'est ce qui arrive encore, encore régulièrement aujourd'hui. Mais quand il était directeur, c'était absolument épouvantable. Et puis donc d'où la plainte qui est déposée par la LDH et Utopia 56.
Très bien. Moi, très bien, non. C'est vraiment assez effrayant et on manque totalement d'humanité en ce début du 21e siècle et ça fait peur. On parlera aussi en France aussi, il y a des choses qui vont de pire en pire avec un ministre de l'Intérieur qui fait condamner ou qui fait arrêter toutes les oppositions. Bon, on n'a pas aujourd'hui avec nous nos amis de la FPS, mais ce qui se passe à Gaza, la moindre action de solidarité est soit empêchée, soit interdite de manifestation, interdite de conférence, il y a une quarantaine de personnes qui est convoquée par la police en France pour apologie du terrorisme, alors que là aussi le travail que fait la LDH, quand on porte secours à notre prochain, quand on dénonce les horreurs et les massacres, il y a une espèce d'inversion des valeurs où c'est ceux qui lancent les alertes qui sont considérés comme des criminels par un État de plus en plus policier en France.
le dire.
Je le dis. Là, on va faire notre, si ça vous va, on va faire notre pause musicale et on va commencer notre dossier sur la fameuse statue Bijar à Toul qui fait de plus en plus de bruit avec vous deux comme membres du collectif toulois qui s'appelle Mémoire et Histoire dans la dignité.
Et le respect
des droits humains. Ouais. Et ben on écoute une chanson qui était de Renaud à l'époque, qui s'appelle La Médaille. Justement, ça parle d'une statue. Écoutez bien les paroles. Et c'est chanté par Grand Corps Malade. Tu nous envoies ça, Pierre. C'est parti.
S'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. L'enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassin, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassin, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis.
RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin.
Dans cette émission, nous allons parler de la volonté de la mairie de Toul de faire une glorification, d'ériger une statue au général Bijar. Général Bijar qui fut tortionnaire pendant la guerre d'Algérie, qui était un militaire né à Toul quand même.
Né à Toul, mort à Toul. Oui, c'est voilà. Ce qui explique que la mairie... On peut peut-être juste préciser que ce n'est pas la mairie qui a fait la statue, mais il y a une fondation Bijar
qui offre
la statue à la mairie, et la mairie a accepté ce don.
Ce don, c'est ça. Mais ce qui nous choque dans nos associations, c'est qu'en plus de 2024, il soit encore possible de glorifier la colonisation, de glorifier la torture et les exactions militaires qui ont été nombreuses. Et donc le collectif toulois, le collectif Mémoire et Histoire...
Histoire et Mémoire dans le respect des droits humains.
Voilà.
Le nom est un peu long, mais il couvre quand même bien toutes les valeurs que nous cherchons à défendre.
Donc un collectif s'est créé, je crois, on en parlera aussi dans le sujet. Au départ, à l'origine, c'est un ancien appelé en Algérie qui a été choqué quand il a appris ça. Et depuis, un collectif s'est monté et vous avez aussi... votre collectif a aussi notre collectif en fait je suis dedans
oui.
aussi notre collectif a aussi eu l'appui d'historiens de gens qui ont la connaissance qui recherchent la vérité historique sur les choses et nous avons aujourd'hui avec nous Fabrice Risseputi. Bonjour Fabrice.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que Philippe, tu veux le présenter en deux, trois phrases, Fabrice, et après il nous fait un petit, Fabrice nous fait un peu le point sur qui est ce ce général Bijard. Donc tu me disais hors micro que c'était un chercheur, un historien qui avait une chaire d'histoire. Ah mince, il y a Fabrice. Nous perdons Fabrice.
Un spécialiste des questions coloniales et post-coloniales.
Ouais. Tu tiens un blog sur le site de Mediapart, c'est ça?
Oui, alors je suis un des animateurs d'un site qui s'appelle histoirecoloniale.net et je viens de publier justement un livre intitulé Le Pen et la torture, l'histoire contre l'oubli, où je reviens sur cette question de la torture donc durant la guerre d'indépendance algérienne et notamment durant ce qu'on a appelé la bataille d'Alger.
Ouais, donc est-ce que tu peux nous faire un portrait, bon on sait qu'on n'a pas le temps de faire tous les détails, mais qu'est-ce que toi, au niveau, avec tes recherches, tu peux nous dire sur ce général Bijard? C'est vrai que quand on est lorrain, on a tous entendu parler du général Bijard, parce que je crois qu'il a travaillé fortement à sa propre gloire, et apparemment ça continue, puisque sa famille et une fondation propose de lui ériger une statue. J'étais venu à votre conférence au mois de mars, une statue de 2,50 m ou 2,30 m, ce qui est déjà aussi donc une statue plus grande que nature. Donc
qui le représente en para, parce que Bijard a été député, etc. Mais il est représenté en para. C'est vraiment le soldat de la guerre, enfin de la bataille d'Alger et de la torture qui est représenté. Ouais.
Alors Fabrice, qui est donc ce...
Oui. Alors j'aimerais d'abord dire un mot sur le contexte. Très global de cette histoire. On est à une époque où depuis plusieurs années dans le monde entier, on réfléchit sur l'opportunité de célébrer dans l'espace public, par des noms de rues, des statues, des monuments, des gens dont on sait qu'ils sont des criminels de l'esclavagisme ou du colonialisme. Hein. Il y a eu un mouvement, donc, prenant le déboulonnage des statues, par exemple, d'esclavagisme. Oui. Ici, à Toul, ce qui est envisagé, c'est d'ériger une nouvelle statue à quelqu'un dont on sait qu'il est un des symboles, un des principaux symboles de la torture coloniale, pratiquée notamment donc en Indochine et en Algérie. Alors, le colonel Bijard, il a joué un rôle particulièrement important lors de ce qu'on appelle la bataille d'Alger en 1957. Il dirigeait un régiment qui s'appelait le 3e RPC. Sa responsabilité, son implication dans l'usage massif de la torture à Alger est quelque chose qui ne fait, contrairement à ce que a cru pouvoir dire le maire de Toul, absolument aucun débat. Parmi les historiens, hein, puisque le colonel Bijard, donc à la tête de son régiment, est l'un de ceux qui ont déclaré le plus, il y a une archive là-dessus, hein, le plus de morts suspectes. Oui. Au cours de cette bataille d'Alger. Mmh. Le colonel Bijard est mentionné au moins comme étant présent lors de séances de torture, notamment par une célèbre combattante algérienne qui s'appelle Louisette Idilaziz.
Oui.
Il a été mentionné également comme responsable de la torture par le général Massu. Il a lui-même enseigné la pratique de la torture dans une école qui s'appelait le Centre Jeanne d'Arc, qui était installé à Skikda, qu'on appelait alors Philippeville en Algérie, où on enseignait aux officiers chargés du renseignement des méthodes de torture soi-disant moins violentes et inhumaines que celles des nazis, mais où on leur enseignait par exemple qu'il fallait utiliser la GGN, la torture à l'électricité, ou la torture par la simulation de noyade, hein, qu'on appelle parfois la baignoire, ou bon, voilà.
Donc on peut peut-être rappeler que la GEGEN, ça veut dire qu'on met des électrodes sur les parties génitales des personnes ou sur les parties très sensibles et qu'on balance de l'électricité pour les faire parler. C'est une chose où on fait hurler les gens. Et puis tu disais là, dans la simulation de noyade, c'est mettre un linge mouillé et mettre la tête des personnes dans des baignoires avec de l'eau. Et
de l'eau salie souvent aussi, hein, de l'eau...
Et c'est total, c'est des tortures, c'est des tortures.
Je dis que de ces méthodes de torture, on est souvent mort, hein, c'est-à-dire que la GEGEN provoquait souvent des arrêts cardiaques, hein, la torture à l'eau également. Voilà, donc il s'agit ici de crimes, hein, même s'ils ont été amnistiés dès 1962, dès l'indépendance de l'Algérie par le gouvernement français, ce qui a garanti donc l'impunité judiciaire aux gens comme Marcel Bijard, et qui permet au maire de Toul de dire « Ah mais Marcel Bijard n'a jamais été condamné », ce qui est une affirmation assez risible, puisque effectivement il bénéficie, comme tous les tortionnaires, de l'amnistie. Voilà.
Oui, donc le maire de Toul, qu'on va appeler de son nom quand même, il s'appelle Monsieur Alde Armand, fait partie de ces gens qui font semblant de croire qu'il n'y a pas de problème parce que la personne n'a pas été condamnée, alors que, comme tu nous le dis, il faut bien marteler ça, à la fin de la guerre d'Algérie, il y avait je sais pas, c'était un décret ou en tout cas une amnistie générale, donc ça veut dire qu'on ne pouvait plus revenir sur les crimes de différentes personnes qui auraient pu être incriminées. Donc il n'a pas été, Bijard n'a pas bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe, il a simplement bénéficié d'une loi qui faisait qu'on n'allait pas aller lui chercher des poux dans la tête.
Et que cette amnistie ait été décidée juste après la fin du conflit, en dit long sur la culpabilité qui devait traîner dans les bureaux et au sein de l'armée, pour qu'immédiatement on ait envisagé de protéger tous ceux qui avaient commis ces exactions et ces tortures.
Cette amnistie, elle était réclamée à grands cris par les officiers de l'armée française qui avaient été couverts et même encouragés, hein, à pratiquer cette forme de terreur, notamment par le gouvernement du socialiste Guy Mollet. C'est ce qu'ils avaient fait, ils savaient très bien que c'était toujours des crimes aux yeux de la loi française, et qu'en cas de changement politique, et notamment d'indépendance de l'Algérie, de fin de la guerre, ils risquaient d'être lâchés par le pouvoir politique nouveau et d'être traduits devant des tribunaux. Donc ils ont exigé et obtenu immédiatement de De Gaulle cette garantie d'impunité. Et cette amnistie, elle a joué un rôle très important dans l'amnésie qui a suivi la guerre d'Algérie. Et voilà. Et alors, bon, encore un petit mot. Le maire de Toul est présumé être de gauche, hein, il était membre du Parti Socialiste il y a encore peu de temps, et moi je prends cette affaire aussi comme un symptôme de cette incapacité d'une certaine gauche française à faire l'inventaire du rôle qu'elle a elle-même joué pendant la guerre d'Algérie. Hein. Je rappelle que le gouvernement et ses filiaux, donc l'ancêtre du Parti Socialiste de Guy Mollet, est celui qui a franchi un seuil considérable dans la violence de la guerre et qui a prolongé la guerre en donnant les pleins pouvoirs à l'armée en 1957 lors de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Voilà. Et on voit que manifestement, la réflexion et le simple enseignement de tout ça n'existe pas, et c'est bien malheureux.
Oui, même François Mitterrand a été aussi ministre de l'Intérieur, je crois, dans ces années...
Oui, il a été ministre de l'Intérieur dans un premier temps, et à l'époque dont je parle, en 1957, il est ministre de la Justice.
Oui. Hein.
Et lui aussi, évidemment, il porte une responsabilité, notamment dans le fait d'avoir refusé la grâce, enfin d'avoir contribué à faire refuser les grâces présidentielles de dizaines et de dizaines de condamnés à mort,
qui ont été
notamment...
tués.
De Fernand Yvetot, qui est connu maintenant par un certain nombre d'œuvres littéraires et ou cinématographiques, qui a été exécuté alors qu'il n'avait jamais fait couler la moindre goutte de sang.
Et donc ce fameux... Alors, au moment de la guerre d'Algérie, tu dis que c'était un colonel, c'est ça, Bijard? Il était colonel?
Oui, il était colonel en 57, il était colonel, oui.
Et c'est vrai que les gens qui s'intéressent un peu à la guerre d'Algérie, maintenant, c'est vrai que ça commence à faire lointain, et donc il est important de maintenir cette histoire qui n'est pas si ancienne, mais qui peut passer dans l'oubli. Il est important que des chercheurs, des gens comme vous, et puis des militants qui recherchent la vérité et dans un cadre humaniste, en respect des droits humains, continue à faire parler, à parler, parce que c'est aussi une guerre qui a été une guerre sans nom, NOM, parce que les gens qui l'ont fait la plupart du temps n'en parlaient pas et ont été choqués, parce que alors contrairement à la guerre d'Indochine, qui était une guerre que de militaires, la guerre d'Algérie a aussi été une guerre d'appelés. Ils sont dans le collectif, l'association 4ACG.
Oui.
Il y a une association, et j'invite les auditeurs à aller voir le site de 4ACG. 4A, ça veut dire anciens appelés et leurs amis contre la guerre d'Algérie.
Contre la torture et la guerre d'Algérie.
Et la plupart des appelés, moi j'ai eu un oncle qui a fait la guerre d'Algérie, mon père l'a évité de tout petit peu, et c'est vrai que c'était les gens ont été traumatisés parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont fait, mais ils étaient encadrés par des militaires, par des gens comme Bijard, pour faire une guerre, une sale guerre atroce, les guerres de décolonisation. Et on rappelle aussi aux auditeurs qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 39-45, il avait été promis à un certain nombre de pays qu'ils auraient leur indépendance à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, promesse qui était un mensonge. Il y a eu le 8 mai 45, c'était la libération en France, c'était également des massacres à Sétif et dans plusieurs villes d'Algérie, des civils ont été tués par milliers. Et donc après, la guerre d'Algérie a commencé en je crois novembre 1954, et c'est terminé en mars 62.
Et donc, si je peux dire un mot à propos de la 4ACG, c'est une association absolument remarquable, parce que en fait elle est composée de d'anciens appelés qui ont participé à la guerre très souvent, bien sûr, sans l'avoir voulu, on était obligé d'aller quand on avait un certain âge, d'aller combattre en Algérie. Et ce sont des gens qui, lorsque la France, en 1999, a reconnu qu'il s'agissait d'une guerre et non pas simplement de ces événements d'Algérie dont on parlait, ont donc eu droit, du coup, à une pension d'anciens combattants, si vous voulez. Hein, ouais. Et qui ont décidé de ne pas toucher, de ne pas encaisser cet argent, mais de le consacrer, ces pensions, à aider le peuple algérien. Et ils mènent un certain nombre d'actions.
Des relations avec l'Algérie. Ils organisent des voyages.
C'est particulièrement intéressant, effectivement. Ouais. Leur site internet est très intéressant. Encore un mot à propos de Bijard.
Ouais. Vas-y.
Il faut quand même dire que le général Massu, par exemple, qui commandait Bijard à ce moment-là et qui commandait la 10e division parachutiste, a fini très tardivement, peu de temps avant de mourir, par exprimer des regrets. Hein, il a dit, ah oui, la torture, on aurait pu faire autrement, on aurait dû faire autrement, et il a exprimé des regrets, des remords. Le général Paul Ossarès, lui, qui dirigeait un escadron de la mort à Alger en 1957, a avoué, fièrement d'ailleurs, cyniquement, un certain nombre de crimes. Le général Bijard, qui est devenu ensuite donc député et secrétaire d'État, lui n'a jamais, bien au contraire, exprimé le moindre regret, le moindre remords, ni avoué quoi que ce soit. Alors il a fait l'apologie de la torture, comme tous ces militaires qui ont continué à prétendre que c'est grâce à la torture qu'ils ont réussi à empêcher les bombes d'exploser, etc., ouais. Ce qui est une fable complète, bon, je ne développe pas là-dessus, mais il a même été, quand il a été mis en cause en l'an 2000 par le journal Le Monde dans son rôle sur la torture, non seulement il n'a rien avoué ni rien regretté, mais il a dit, attention, Marcel Bijard peut encore mordre. Hein, voilà. D'ailleurs, il avait la particularité de parler de lui toujours à la troisième personne du singulier. Et on va dire que il a, comment dire, passer sa vie après la guerre à construire lui-même
sa propre légende.
D'ailleurs, il le faisait pendant la guerre aussi, et il était moqué par ses collègues officiers qu'il appelait la Brigitte Bardot du régiment.
Dès 1900, j'avais retrouvé en ligne, on voit ça très facilement, une interview de Bijard par Anne Sinclair en 1980, qui l'interroge sur la torture. Alors on sent qu'elle marche un peu sur des œufs. Et Bijard se vante d'être celui qu'on appelait pour une torture plus humaine. Il se vantait vraiment de la qualité des moyens qu'il demandait à ses soldats d'employer, de façon complètement stupéfiante et indigne, vraiment scandaleuse pour nous tous aujourd'hui.
Alors je ne sais pas si Bijard lui-même était impliqué dedans, mais c'est vrai qu'il y a eu, faut le dire aussi aux auditeurs, aux auditrices, il y a eu une école française, entre guillemets, de la torture qui a été exportée, qui a été appelée par les dictatures, notamment d'Amérique du Sud, comme en Argentine, et des instructeurs militaires français allaient... comme tu disais tout à l'heure, en Algérie, il y avait une école spéciale, et ces écoles-là ont fait des petits, et plusieurs dictatures dans le monde ont utilisé ce savoir-faire français, ce made in France de la torture, ce qui n'est pas du tout une gloire pour nous de savoir ça.
Peut-être Fabrice peut-il nous rappeler ce qu'on appelle les crevettes Bijard.
Oui, tout à fait.
Oui, j'ai oublié, voilà, je voulais y revenir aussi. Ouais,
moi aussi.
Il y avait à la préfecture d'Alger un secrétaire général à la police qui s'appelait Paul Tedjen, qui était lui-même un ancien déporté résistant, qui a démissionné, donc qui était en fait le correspondant civil, si vous voulez, du général Massu et du colonel Bijard, etc., à la préfecture d'Alger. Et en mars 1957, il a écrit une lettre de démission solennelle à Robert Lacoste, le ministre de l'Algérie, en lui disant que ce qu'il voyait faire par donc Massu, Bijard et compagnie, c'était exactement ce qu'il avait subi lui-même en tant que résistant déporté, arrêté par la Gestapo, à Nancy d'ailleurs, hein, dans la prison de Nancy, hein, c'est-à-dire la torture à l'électricité et à l'eau. Et il a ensuite fait connaître cette expression qui était courante à Alger à l'époque, qui était l'expression « crevette Bijard ». Alors ça désignait quoi ? Ça désignait donc c'est ce qu'on appelle les disparus de la bataille d'Alger, qui étaient souvent... dont les cadavres devaient disparaître, parce que leur exécution sommaire ou leur mort sur la torture était, encore une fois, je le répète, un crime, et donc il fallait dissimuler, détruire les cadavres. Et une des façons de les dissimuler ou de les détruire, c'était de les emmener dans un hélicoptère, avec les pieds coulés dans une bassine de béton, et de les larguer dans la mer. Sauf que il arrivait que certains ne soient pas trop bien lestés, et qu'on les ramasse sur les plages, et on avait pris l'habitude d'appeler ça les crevettes Bijard. Alors j'ajoute que moi je mène parfois des missions d'enquête en Algérie sur ces affaires, et que chez les Algérois, le nom de Bijard est devenu un terme générique pour désigner les parachutistes et les tortionnaires. Hein, on dit « mon grand-père a été enlevé par les Bijard ». Voilà. Donc on est vraiment, hein, je le répète, ici, il est question d'un des principaux symboles de quelque chose qui est considéré en droit international aujourd'hui comme un crime contre l'humanité, c'est-à-dire de la pratique de la torture et des exécutions sommaires. Hein. Et il est vraiment absolument scandaleux qu'on puisse penser à mettre dans l'espace public une statue de Marcel Bijard, c'est-à-dire qu'on dise à la population « voilà un homme qu'il faudrait admirer et même imiter ». Hein, c'est pas du tout un héros, voilà.
Oui, parce que la Fondation Bijard qui a commandé cette statue à un sculpteur qui est très proche des milieux catholiques intégristes et zémouristes. Cette fondation, quand elle se présente sur le site de la Fondation de France qui l'héberge, prétend proposer par le général Bijard un modèle à la jeunesse, voilà. Parce que le général incarnerait des valeurs qui sont essentielles pour former la jeunesse de demain. Alors, on ne peut que tomber de sa chaise quand on lit des lignes comme celle-là, quoi.
Oui, on peut s'interroger aussi sur la raison pour laquelle un tel discours est encore possible. Hein. Et la raison, c'est que la République française, plus de 60 ans après, n'a toujours pas été capable de dire ce qu'elle pensait de la guerre coloniale qu'elle a menée en Algérie pour empêcher le peuple algérien d'obtenir son indépendance. Et ça, ça pèse très lourd. Hein. Elle a reconnu, par exemple, la responsabilité de Vichy dans la perpétration du génocide des Juifs par les nazis. Elle a reconnu l'esclavage comme ayant été un crime contre l'humanité. Mais pour ce qui est de la torture et des exactions coloniales, c'est silence radio. Hein. Et l'actuel président de la République française, qui parle beaucoup de la guerre d'Algérie, évite soigneusement ce terrain-là. Hein. Alors, pour des raisons politiques évidentes, c'est que l'extrême droite, la droite nationaliste et raciste ont un niveau d'audience en France tel que il est parfaitement inenvisageable de faire aujourd'hui une telle reconnaissance.
Inenvisageable quand on n'a pas de courage.
Comment ?
Inenvisageable quand on n'a pas de courage.
On sait bien que c'est pas ce courage-là qui caractérise le pouvoir actuel en France. Hein.
Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai que bon, il y a toute la partie historique et maintenant que des chercheurs comme toi documentent au fur et à mesure, et il y a ce paradoxe que là, sachant la vérité, sachant le fait historique de plus en plus clairement, ce qui est totalement incompréhensible, c'est ce que tu viens de dire. Pourquoi vouloir glorifier la torture, pourquoi vouloir glorifier les guerres coloniales pour les colonisateurs, c'est ça qui est incompréhensible. Et puis cette mairie dite de gauche du maire Aldeharmand, c'est parce qu'apparemment le collectif, il reste assez campé, ce maire sur
sa position. Ouais. Oui. Alors il a des arguments qui effectivement se démontent assez vite. Fabrice l'a fait tout à l'heure. Hein. Il dit que Bijard n'a été condamné de rien. Donc maintenant on comprend bien pourquoi. Et puis il reproche aussi au collectif de s'être réveillé tardivement, genre mon projet est trop avancé. Tant pis, je peux pas faire marche arrière. Alors que si, il le faut aux yeux de l'histoire. Il est impensable que Toul, qui est une ville qui a un patrimoine historique remarquable, devienne aussi la ville où, en 2024, on glorifie quelqu'un qui est associé à la torture, à la colonisation et au racisme que Fabrice évoquait à l'instant en parlant des idées d'extrême droite, au racisme qui sous-tend tout cela. Parce que, et lors de la conférence de Fabrice Rissé-Pouty et Alain Roussiot en mars à Toul, ce qu'ils ont rappelé aussi tous les deux, ce qu'ils nous ont permis de comprendre, c'est que quelqu'un comme Bijard, c'est quelqu'un qui, juste après la Seconde Guerre, c'est quelqu'un qui devait travailler dans une banque, hein, d'abord. Et il a été résistant et est-ce que cette guerre lui a donné l'occasion d'exprimer une forme de violence? Il est devenu donc un redoutable homme de guerre et il fait partie de ceux qui ont combattu en Indochine. Et ce que nos deux historiens nous ont démontré pendant la conférence, c'est qu'il y avait bien un peu l'idée d'une sorte de revanche. L'Indochine était perdue.
Oui.
Bijard avait dit, c'est la race blanche qui a perdu, c'est Alain Roussiot qui nous rappelait cette citation. Et il y a cette idée en Algérie que là, la France blanche va gagner, ne va pas perdre cette terre-là. Donc il y a bien un fond de racisme. Et qui aujourd'hui croit encore pouvoir héroïser quelqu'un comme Bijard, doit s'interroger sur ce racisme qui n'est peut-être pas tout à fait conscient, mais qui est bien présent.
Et que la municipalité de Toul continue à soutenir, et tu parlais tout à l'heure aussi du choix du sculpteur, qui est donc Boris Lejeune, qui est effectivement un sculpteur d'extrême droite, qui travaille et collabore avec des médias intégristes et les zémoristes, tu disais qu'il est plutôt
aussi.
Ben, ouais. Oui, il a eu les honneurs d'un magazine zémoriste, effectivement, qui s'appelle L'Incorrect.
Ouais. Boris Lejeune, donc ça c'est le nom du sculpteur qui a avec la fondation Bijard qui est à Toul, proposé à la mairie de Toul de d'ériger cette statue de 2m30 ou 2m50 dans Toul. Et c'est vrai que ça serait vraiment une cicatrice, une balafre.
Une tache, et oui. Puis... Moi, je trouve que c'est vraiment une insulte faite à tous ceux qui s'intéressent quand même un peu objectivement à l'histoire, et puis aux descendants de toutes ces personnes qui ont souffert de cette colonisation. Fabrice évoquait l'enseignement. C'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, on m'a parlé vaguement des événements d'Algérie, mais en fait, aujourd'hui, maintenant, on parle de guerre de décolonisation. Mais c'est vrai qu'on oublie peut-être de nous apprendre ce que ça veut dire coloniser. Mmh. Parce que moi, à cause de cette affaire Bijard, je suis allée lire un petit peu. J'ai découvert Bugeaud, j'ai découvert tout ce que la France, Bugeaud, l'armée française.
On dit peut-être aux auditeurs, c'était un général qui a fait partie de la
colonisation.
Le départ en 1830, et notamment en brûlant des gens, en enfumant des gens, en tuant des gens dans des grottes. Mmh, ouais. Il est connu pour ça.
Oui.
Bugeaud.
Et le sergent Blandan aussi, qu'il ne faut pas oublier.
Ah, sergent Blandan.
Qui a sa statue. Statue à Nancy, et dont un documentaire va sortir là prochainement par un réalisateur nancéen d'origine algérienne. Je le cite,
oui.
Voilà, qui s'appelle Marek Kelou, qui a fait tout un travail parce qu'il raconte en fait que quand il était en Algérie, bon, toute sa famille a été déplacée, elle a subi les. Je pense que Fabrice connaît bien ça, les camps de regroupement, voilà. Et puis donc il disait qu'en fait sur la place du village, la statue du sergent Blandan trônait, et que cette statue donc elle est arrivée à Nancy.
Ah oui.
Rue du sergent Blandan, qu'on connaît tous, on passe devant quand on monte vers Vendeuvre, on passe à côté quoi. Voilà.
On apprend des choses.
J'ignorais ça aussi.
Ouais.
Il faut dire quand même que cette affaire a déjà commencé à salir la réputation de la ville de Toul, hein, puisque, au niveau national, il y a quand même eu un certain nombre de presse nationale, de radio, de journaux, hein, Le Canard Enchaîné,
Charlie Hebdo, Humanité.
Qui ont mis. Alors, le maire de Toul serait bien avisé quand même de se rendre compte qu'il serait bon. À cet égard, donc, de reculer, hein, d'annuler d'annuler ce vote malheureux en conseil municipal, et de laisser cette statue là où elle est, c'est-à-dire à sa place, probablement, enfin, c'est à discuter aussi, hein, mais dans une caserne.
Moi, je peux m'exprimer,
par exemple,
sur la question de l'installation de la statue dans une caserne, parce que une caserne, c'est aussi un endroit de la République, un endroit public. Enfin, pour moi, c'est un endroit public. On voit ce qui se passe actuellement. Je peux aussi le pont avec le service national universel, où pendant ce fameux stage très militarisé, très souvent, en fait, il y a une partie patrimoine où on emmène en fait les jeunes de 15-16 ans visiter le patrimoine militaire français, et je vois très bien, alors là, gros comme une maison, qu'on va emmener des jeunes dans cette caserne-là pour aller rappeler
la grandeur
du général Bijard. Il ne faut surtout pas que ça arrive.
Le sujet est tellement... Alors effectivement, je pense que le maire de Toul a bien compris qu'il s'était mis dans de sales draps et qu'il n'a pas encore le courage de reconnaître officiellement son erreur. Si c'est parce qu'il a peur de la réaction du camp en face, c'est-à-dire de la droite et de l'extrême droite, alors c'est très très inquiétant. Ça veut dire qu'il a plus peur d'eux que de sa gauche et de ceux qui portent un discours humaniste. Et par exemple, quand Alexandre Hérault, journaliste à Blast, est venu pendant 2 jours pour faire un podcast qu'on peut écouter, qui s'appelle Pagaille, qu'on peut retrouver sur YouTube en tapant Pagaille Blast, il est resté pendant 2 jours, il a contacté et la mairie et la fondation Bijard et l'armée. Et au fur et à mesure, les portes se sont refermées. C'est-à-dire que l'armée avait accepté de le laisser entrer dans la caserne pour voir la statue et discuter avec un des responsables. Finalement, la muette est redevenue muette. Le maire de Toul a toujours refusé un entretien. La responsable de la fondation Bijard a refusé aussi l'entretien. Et même un des maires du Toulois qui, par écrit, avait exprimé toute son admiration pour le général Bijard auprès de Philippe Champouillon, qui est cet ancien combattant... cet ancien appelé, qui s'est indigné de ce projet et qui a remué tout le monde et a permis la construction de ce collectif, eh bien même ce maire a refusé finalement d'être interrogé par Blast. Donc c'est dire quand même le malaise ambiant.
J'ai vu qu'il y a même eu des articles dans la presse algérienne.
Oui, la presse algérienne, bien sûr.
Ouais. En Algérie, évidemment, ça scandalise, hein, cette affaire, tout le monde, hein, c'est sûr. Hein.
Et voilà, il nous reste plus beaucoup de temps, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce petit bruit? Alors Pierre, qu'est-ce qui se passe? Non, il nous reste très peu de temps maintenant. Est-ce qu'on peut terminer l'émission en parlant du collectif? On peut dire que une des premières grosses actions, ça a été une très très belle conférence avec Fabrice qui était à Nancy. Fabrice
Alain Ruchiot,
Brice Pouty, Alain Ruchiot. Redire que Fabrice tient un site qui s'appelle histoirecoloniale.net.
Cette conférence, on peut l'entendre sur Radio Déclic et sur YouTube aussi. Il me semble qu'on peut encore trouver ces...
La conférence, oui. Dire que aussi Parole de paix, on peut réécouter l'émission sur rcn-radio.org en cherchant Parole de paix dans la partie des magazines de société.
Il y a aussi une pétition en ligne.
Oui, pétition
en ligne. Change.org qui a déjà recueilli plus de 2000 signatures. Il y en a une autre qui en a recueilli plusieurs centaines. Et donc là, je crois qu'on n'est pas loin des 3000 signatures.
Peut-être dire qu'il faut aller sur le site de pétition qui s'appelle change.org et taper...
Pas de statut Bijar. Vous écrivez change.org, statut Bijar, vous trouverez immédiatement la pétition.
Donc il faut aller
signer. Et puis il y a un rassemblement qui est prévu le 25 mai à 16h, place Nelson Mandela à Nancy. La place Nelson Mandela, elle se trouve entre la place Stanislas et la pépinière. Donc on peut aller et au Cercle du Silence des RESF à 15h et... poursuivre avec ce rassemblement à l'appel du collectif et de très nombreuses associations, syndicats, organisations politiques. Hein, on est vraiment porté par des dizaines de groupes et qui se retrouvent tout à fait dans ce combat qui ne concerne pas que la ville de Toul, qui est vraiment un combat que toute personne soucieuse, comme l'indique le collectif, hein, du respect des droits humains et d'une écriture objective de l'histoire dans laquelle la France soit capable de reconnaître ses fautes. Ben, tout le monde est invité à venir se rassembler pour dire non à l'installation de cette statue. Et rendez-vous va être demandé aussi auprès de la préfecture.
Oui, et donc si on veut joindre le collectif directement, je ne sais pas s'il y a une adresse simple, mais on a donné tout à l'heure l'adresse de la ldh-nancy@ldh-france.org. L'adresse de la Libre Pensée, tu la connais de tête,
Sylvie? La Libre Pensée, oui, c'est librepensée54@proton.org. .me, je crois, à la fin.
Ouais, et le MOC, qui est aussi membre de ce collectif, MOC Nancy, tout attaché, MOCNANCY, @ouvaton.org, OUVATON.org. En tout cas, on va remercier vraiment Fabrice à plus d'un titre.
On peut peut-être parler aussi du site milleautres.org. Peut-être que Fabrice peut en dire mot.
C'est un site qui collecte des témoignages de descendants et de proches de victimes, donc justement de cette terreur à laquelle a participé Marcel Bijar, vous pouvez voir sur la page d'accueil de ce site, donc 1000 en chiffres, autres attachés au pluriel, .org, une sorte de mémorial, puisque les familles nous envoient souvent la photo de leurs disparus ou de leurs aïeul qui a été enlevé et torturé par l'armée française. Voilà, c'est un travail que je mène avec l'historienne Malik Haral depuis maintenant 7 ans.
Oui, suite aussi au mathématicien Audin, c'est ça qui est... Très bien. Bon, en tout cas, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Nous, on a dépassé le temps qui nous était imparti. On remercie encore Pierre et Radio Caraïbes de nous laisser faire des émissions de cette qualité. On remercie Fabrice qui est venu à une superbe conférence. On peut le dire, la salle était blindée. Il y avait plus de 150 personnes dans la salle. C'était une très belle conférence. On vous remercie pour cette venue à Nancy et puis tout le travail que vous continuez à faire et la participation à cette émission Parole de paix.
Merci.
Au revoir à tous. Au revoir. Salut Philippe, au revoir Sylvie et à bientôt.
Merci Pierre.